Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Lejindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce journal d'information dont voici les faits marquants. Trop c'est trop, dit le gouvernement de la République qui dit mettre fin à la montée de la criminalité et du banditisme urbain à travers le pays. C'est ce qui a été décidé au Conseil des ministres le vendredi dernier. Les deux camps des députés provinciaux du Kasaï central, autrefois divisés, décident d'enterrer la hache de guerre. Ils ont aussi pris l'engagement de privilégier la paix. L'intérêt de la province oblige. D'ici le 30 octobre en cours, le projet d'accompagnement de communautés locales et de peuples autochtones dans la gestion durable des forêts va arriver à terme après 7 ans d'exécution. Pour en parler, nous recevons le professeur Alphonse Maindo, directeur des Trompe-Boss RDC. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour à tous. Montée de la criminalité et du banditisme urbain en RDC, le gouvernement congolais préoccupé est dit prendre des mesures pour éradiquer le phénomène braquage à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. C'est ce qui a été dit au cours du Conseil des ministres le vendredi dernier. Entre-temps, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, annonce l'arrestation de quelques présumés criminels mis à la disposition de la justice et affirme que la traque continue. Le point avec Grace Hamzati.
Face à l'ampleur du phénomène braquage, notamment à Kinshasa, tel que décrié par les structures de la société civile et acteurs politiques de l'opposition, les autorités du pays rassurent. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, fait le compte-rendu du Conseil des ministres.
Des actes de braquage et attaques par des criminels enregistrés ces derniers jours, dont les cibles ont été des agences financières, les régies financières, les magasins et dépôts dans Lubumbashi et d'autres agglomérations. Tenant compte de ces tendances haussières, à l'approche de fin d'année, le ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières a pris les dispositions nécessaires pour répondre à ces fléaux. Ici est d'indiquer que la plupart de criminels sont pour la plupart des repris des justices.
De son côté, le commissaire divisionnaire Israël Kantoubankoulou, commandant de la police ville de Kinshasa, appelle les habitants à renforcer leur collaboration avec les forces de l'ordre.
Je vais rassurer la population que parmi les inciviques, quelques-uns sont déjà entrés nos mains et ceux qui sont à cavale, nous continuons à les poursuivre et nous demandons à la population de collaborer, de travailler en synergie avec les services de sécurité pour qu'on puisse mettre la main dessus et les mettre hors de nuire.
Notons qu'au cours des deux dernières semaines, au moins 3 cas de braquage ont été enregistrés à Kinshasa, dont un a coûté la vie à un sujet libanais dans la partie est de la capitale, affirme la police.
Sécurité toujours, une femme otage a été libérée de main des miliciens Mobondo ce dimanche à Kwamout dans le Grand Bandundu, 2 mois après sa captivité. D'après le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'opération Ngemba, cette libération a été réalisée avec la collaboration de la population. Il invite les autres communautés de cet espace à collaborer avec l'armée pour que ces insurgés soient mis hors d'état de nuire. D'autres détails avec le capitaine Anthony Mwalushai dans cet extrait choisi par Vanessa Kongolo.
Enlevé le 28 août 2025 par les insurgés Mobondo entre le village Ntumbakite et Lumete, Madame Makanda Divine a été libérée grâce à une opération menée par les forces armées de la République démocratique du Congo avec le soutien actif de la population locale. La victime a été immédiatement confiée au service spécialisé des forces armées pour recevoir une prise en charge médicale et psychologique. Il faut signaler que l'opération de libération n'a pas seulement permis de sauver Madame Makanda Divine. 2 combattants Mobondo ont été également capturés par l'armée congolaise. Nous continuons à saluer cette collaboration exemplaire de la population civile du territoire des Kwamout, tout en soulignant que cette synergie entre civils et militaires reste essentielle dans la lutte contre les groupes armés. C'est grâce à la vigilance et au courage des habitants que nous avons pu mener à cette opération avec succès.
En Ituri, pendant ces temps, le gouverneur de province appelle les fils et filles de l'Ituri, encore impliqués dans la déstabilisation de la région,
région à adhérer au processus de paix pour un retour total de la stabilité. Le général Johnny Luboyanka-Chama affirme que des avancées significatives sont observées sur le plan sécuritaire depuis ces 4 dernières années. Il exhorte la population à privilégier le dialogue et le pardon pour une cohabitation pacifique afin que tous puissent bénéficier des richesses de la province. Le gouverneur s'est exprimé à l'occasion de la journée des Nations Unies célébrée le 24 octobre dernier. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
À la population de notre province, je voudrais dire ceci. Cet esprit belliciste chez certains de nos frères qui quittent la région pour faire la guerre contre la province doit cesser. Qu'ils arrêtent vraiment afin que nous puissions instaurer la paix pour notre population. Nous sommes sur la bonne voie. Regardez d'où nous venons il y a 4 ans et voyez où nous en sommes aujourd'hui. Il y a des avancées significatives. Nous avons vraiment évolué. Certes, il existe encore quelques poches d'insécurité, mais nous sommes convaincus qu'avec l'adhésion de toute la population, cette guerre prendra fin. La province de l'Ituri, comme je l'ai dit souvent, regorge d'énormes richesses pour les pays. Il suffit que nous nous réconcilions, que nous nous pardonnions mutuellement, afin de profiter pleinement de ce que Dieu nous a donné ici en Ituri.
Tout profiter.
Restons en Ituri où les habitants de la chefferie de Kakwa, dans les territoires de Haru, dénoncent les tracasseries, les arrestations arbitraires ainsi que les traitements inhumains et dégradants commis depuis plus d'un an par certains services de sécurité. Située à environ 260 km au nord de Bunia, cette entité vit une situation qui, selon la société civile, viole la constitution et détériore la relation entre civils et forces de l'ordre. Dans un mémorandum adressé aux autorités de l'état de siège, la société civile demande le démantèlement de toutes les barrières illégales et le déploiement des militaires à la frontière pour renforcer la sécurité. Isaac Remoyope, reportage.
La société civile de la chefferie de Kakwa dénonce la présence de plusieurs barrières illégales érigées par certains éléments des FARDC, de la garde républicaine et de la police de circulation routière. Ces barrières sont installées sur les axes reliant Kakwa au centre commercial d'Ariwara et à d'autres localités comme Aba et Faraj dans la province voisine d'Otwele. Selon cette structure citoyenne, à chaque point de contrôle, les usagers sont contraints de payer entre 500 et 14 000 francs congolais en monnaie ougandaise pour faire passer leur vélo, moto ou véhicules. Ceux qui refusent de payer sont souvent fouettés, blessés ou arrêtés arbitrairement. La société civile cite notamment les incidents du 10 octobre dernier, survenus aux barrières de Yere et Kobo, où certains habitants ont subi des traitements inhumains et dégradants. Ces pratiques déplorent-elles, découragent la population à se déplacer vers les marchés communautaires et créent une méfiance entre civils et forces de sécurité. Elles demandent aux autorités de démanteler toutes les barrières illégales servant à rationner la population et de redéployer les militaires vers la frontière avec le Soudan du Sud pour défendre l'intégrité du territoire national. Les autorités de l'état des sièges, qui ont acquisé réception des mémorandums de la société civile, n'ont pas encore réagi à ces préoccupations. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous le disions en titre, les deux camps des députés provinciaux du Kasaï central, autrefois divisés, décident d'enterrer la hache de guerre. Ils ont aussi pris l'engagement de privilégier la paix. Ils ont déclaré ce week-end qu'ils vont désormais regarder dans la même direction et œuvrer pour le développement de la province. Il s'agit des 18 qui soutenaient le président déchu et de 14 qui étaient pour le bureau d'âge. D'autres détails avec André Katende Ngalamoulomé.
Après plusieurs mois de tension, ces deux groupes de députés provinciaux du Kasaï central sont revenus à la raison. D'après Pierre Sosten Gambidi, du groupe des 18 députés qui soutenaient les bureaux déchus de Daniel Lukosa, ces conflits, provoqués par l'égoïsme d'un camp dans la gestion de la province, appartiennent au passé. Ils sont désormais unis pour le développement de la province, surtout pendant cette session budgétaire.
On ne peut pas avoir une institution comme l'Assemblée provinciale qui puisse être dirigée par un bureau provisoire. Le bureau provisoire a des pouvoirs très limités. Nous ne sommes pas dans la gestion budgétaire. Le bureau provisoire ne peut pas recevoir le budget. Donc si nous n'avions pas pris conscience de cette situation, on aurait paralysé le fonctionnement de la province.
Cette décision des élus provinciaux est saluée par la société civile locale, d'après Albert Ngalamoulumé. Coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise au Kasaï central, cette réconciliation est salvatrice pour la province.
Nous avons commencé par accueillir ces gestes avec beaucoup de satisfaction parce que ça va dans l'intérêt de notre population.
Albert Ngalamoulumé demande aux députés provinciaux de maintenir cette cohésion pour les biens de la province qui aspire à son développement. Kananga, André Katendenga Lamoulumé, Radio Kapi.
Au Congo central, le lancement samedi à Kinzamvouete de travaux de réhabilitation de 550 km de routes de dessertes agricoles par les gouverneurs de cette province. Grâce à Nkwanga Bilolo a indiqué que ce vaste programme vise à désenclaver les zones rurales, faciliter la circulation des produits agricoles et renforcer la sécurité alimentaire dans la province. Par la même occasion, il a appelé la population, les administrateurs de territoire et les inspecteurs agricoles à accompagner les équipes sur le terrain pour garantir le bon déroulement de ce programme. Nana Plurich Mambou.
Ces 550 km de routes permettront de relier les grands bassins de production aux marchés locaux et urbains. La première phase d'une durée de 9 mois porte sur plusieurs axes prioritaires. Kinzamvouete, Sekebanza, Mbatasiala, Mvululu, Kimbamba, Kinsonga, Lukungamputu dans les territoires de Kasangulu et Lombofwe-Sekilukweta dans celui de Mbanzangungu. Leur réhabilitation constitue un atout majeur pour les paysans qui jusqu'ici peinent à évacuer leurs récoltes à cause du mauvais état des voies de desserte. Le gouverneur qui a lancé ces travaux a fait savoir que ces projets s'inscrivent dans la vision du gouvernement provincial de redynamiser l'économie agricole et d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales. Avec un coût total estimé à 3 850 millions de francs congolais, soit environ 7 000 $ américains par kilomètre, ces travaux financés par les fonds que génère l'Agence de gestion des droits des péages et des paysages, considérés comme la principale source de mobilisation des fonds de la province, sont exécutés par l'Agence des travaux publics du Congo central. Avec ses 550 km de routes en cours de réhabilitation, le Congo central espère relancer durablement son économie agricole et renforcer son rôle de grenier agricole du pays. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Adoption par le gouvernement congolais d'un projet de décret portant institution, modalité d'octroi et de gestion d'une bourse nationale dénommée Programme Excellencia RDC. Il a été soumis pour examen au Conseil des ministres du vendredi par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Ce texte relève les questions et les objectifs du dit programme placé et il en établit aussi les principes ainsi que les modalités. Plus d'explications avec Patrick Mouyayakatemwe, porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par Grace Hamzati.
S'agissant des conditions d'éligibilité, ces projets des décrets précisent que le programme Excellencia répond aux critères de nationalité congolaise, d'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 80% à l'examen d'État. Les modalités d'organisation du concours et d'octroi de la bourse y sont également reprises. Il prévoit aussi la possibilité d'envisager une délégation de services publics avec des organismes publics ou privés expérimentés dans ces domaines pour assurer une prise en charge efficiente du programme. Par ailleurs, ces textes identifient les sources de financement, à savoir les trésors publics suivant une ligne de crédit inscrite dans la loi des finances. Ils bénéficient également des diverses contributions sous forme notamment de dons, legs et subventions, ainsi que de toute autre ressource autorisée par la législation en vigueur. Il précise aussi que les bourses Excellencia seront orientées vers les priorités du pays et les filières stratégiques. Sa gestion se fera donc à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui est l'ordonnateur de crédits affectés à ces programmes.
Éducation toujours dans la province du Maniema. L'Institut supérieur des sciences des santé et de la Croix-Rouge Maniema exprime le besoin d'avoir son propre bâtiment bien équipé afin de bien mener les recherches, de dispenser un enseignement de qualité tel que prescrit dans le système LMD. Cette demande a été formulée ce week-end par son président du conseil d'administration lors du lancement solennel de la rentrée académique. On écoute Lézard Kakwala Bin Kalonda au micro de Florence Kizalunga.
Cette institution s'inscrit dans la politique nationale de l'enseignement, mais nous, Croix-Rouge, nous voudrions marquer notre cachet spécial conformément à nos domaines. Nous aussi, nous sommes dans la santé et nous voudrions donner à la population ce qui est spécial à nous, ce qui n'est pas copié-collé de chez les autres, notamment au niveau de l'assainissement, au niveau de l'environnement, sans laisser à côté les sciences infirmières. Ce dont nous avons besoin, c'est un renforcement au niveau des capacités d'hébergement des enseignements, c'est-à-dire l'institution doit avoir son propre bâtiment. Et aussi, nous avons besoin de matériel, tout particulièrement les matériels d'assainissement, les matériels en lien avec l'environnement. Notre plaidoyer, nous voudrions bien être accompagnés par les gouvernements parce que la Croix-Rouge est une société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics. Nous venons assister le gouvernement dans son action et on doit aider la Croix-Rouge à aider. Nous demandons aux partenaires, il y a d'abord les partenaires du mouvement, les CICR, la fédération, mais aussi il y a les partenaires externes, notamment les systèmes des Nations Unies et d'autres partenaires intéressés à l'enseignement et à l'accompagnement des communautés.
Actualité internationale.
Porté par Mbappé, encore décisif mais qui a manqué un penalty, le Real de Madrid s'est imposé face au FC Barcelone 2-1 lors du premier classico de la saison ce dimanche 26 octobre. Après un but sublime refusé de peu pour un hors-jeu, le Français a ouvert le score avant que Bellingham ne double la mise en fin de première période. Firmin Lopez a réduit l'écart pour les Blaugrana sur une erreur de relance. Les Madrilènes prennent 5 points d'avance sur les Barça et confortent leur position de leader de la Liga.
L'invité.
D'ici le 30 octobre en cours, le projet d'accompagnement des communautés locales et de peuples autochtones dans la gestion durable des forêts va arriver à terme après 7 ans d'exécution. Financé par le gouvernement néerlandais, ce projet est mis en œuvre par Trobensbons RDC en vue de s'assurer des difficultés persistantes des progrès réalisés sur terrain. Le directeur de cette organisation a effectué ce week-end une mission de supervision dans les territoires de Bafoua-Sendé. Pour en parler, nous recevons le professeur Alphonse Maindo, directeur de cette structure. Il répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'effectuer une mission de supervision à Bafoua-Sendé. En quoi a consisté le projet qui va bientôt prendre fin?
Alors, disons que ce projet se termine à la fin de ce mois d'octobre et il était complété par un autre projet. Parce que quand vous êtes en train d'appuyer les gens à faire une gestion, vous voulez, harmonieuse, durable, inclusive d'un espace, et ça peut créer également des situations de friction, de tension entre les gens, parce que dans toute situation nouvelle, il y a toujours un changement de relation de pouvoir. Il y a un glissement de relation de pouvoir. Et tout glissement de relation de pouvoir entraîne également de conflits et de tensions possibles. Alors, pour prévenir tout ça et également essayer de faire des plaidoyers pour que ça se consolide, nous avions un programme complémentaire. Et ce programme-là visait justement à former les gens sur le droit, mais également pour faire des plaidoyers pour créer aussi des espaces pour qu'ils défendent leurs droits et leurs intérêts en tant que communauté locale. Et ce sont ces deux programmes-là qui se terminent pratiquement au même moment, ici à la fin de ce mois. Mais nous avons donc ce nouveau programme qui vient. Et à côté de ce nouveau programme, nous avons aussi un programme qui a commencé l'année dernière, qui vise à faire aussi des CFSL. Nous avions déjà commencé en quelque sorte à faire une mise à échelle pour dupliquer, si vous voulez, dans d'autres endroits, avec les projets sécurisation forestière et des moyens d'existence des communautés locales, CFOMEPAC, avec un partenaire Tenu Facility. On a dupliqué ça, pas seulement ici à Bafoua-Sendé, notamment dans un nouveau secteur de Bémili, mais nous avons aussi été dans d'autres territoires.
Quelle évaluation faites-vous de tous ces projets antérieurs que vous venez d'énumérer?
Je dois vous dire que, de manière générale, sans beaucoup de fausses modesties ou sans vouloir nous encenser, je dois dire que je suis très 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 fier de mes équipes, de terrain, de tous mes collègues qui ont réalisé vraiment un travail appréciable et je le sens et je le vis ici lors de cette mission de supervision. C'est une mission qui n'a pas été annoncée, si vous voulez, aux gens. Je surprends les gens, mais les témoignages que j'entends des communautés, des bénéficiaires, ça me réconforte, ça me donne beaucoup de joie et ça me donne encore beaucoup plus d'énergie pour pouvoir dire qu'il faut que je continue à m'investir davantage pour ramener davantage de nouveaux projets, pour répondre, pour améliorer les conditions de vie des gens ici.
Professeur Maindo, à quelques jours de la fin de ce projet, vous avez procédé à l'installation d'un chef de bureau de terrain à Bafoua-Sendé, et c'est opportun.
Et justement, c'est puisque ce projet que nous étions en train de mettre en œuvre est arrivé à terme, d'ici quelques semaines, ça va terminer, qu'il fallait trouver des mécanismes de durabilité pour que les résultats qu'on a pu engager puissent être capitalisés et même, si vous voulez, mis à échelle pour d'autres endroits. Et c'est pour ça qu'il fallait faire une coordination, mettre quelqu'un en place. Et nous n'avons pas attendu la fin du projet pour le faire. Nous avions déjà commencé à penser avant. Nous avons trouvé un nouveau financement qui nous permette justement de faire ce travail, d'interconnecter les différentes offres qui existent, mais aussi d'inciter les gens qui sont autour de cet espace, qui ne sont pas encore dans le processus, de rentrer également dans le processus pour créer un espace de corridor écologique le long de la RN4 avec les communautés avec lesquelles nous travaillons. Et donc on a eu donc ces financements qui nous permettent de faire ça et de consolider les résultats qu'on a pu avoir, les capitaliser pour les pérenniser. Et après, on pourrait alors envisager d'aller dans d'autres endroits. Et c'est ça l'essence de ce que nous avons fait ici.
Quelle est la dénomination du nouveau projet et quelle en est sa spécificité par rapport au projet précédent?
Alors, le nom du projet lui-même, c'est des ponts pour la biodiversité. La spécificité, c'est que c'est un projet qui vise à faire en sorte qu'on puisse avoir un grand couloir écologique vert pour permettre à toute la diversité biologique de ces écosystèmes forestiers puisse survivre à travers un certain nombre d'activités qui vont consister, entre autres, à une gestion durable des forêts, mais aussi, si vous voulez, à donner aux gens des alternatives pour ne pas continuer à déforester. On va encore faire aussi de mécanismes en place juridiques d'accompagnement des communautés pour que les gens qui continuent à violer les droits des CFSL et des communautés ne puissent pas continuer à le faire impunément. Et donc pour ça, il y aura une dimension juridique assez importante et de mettre en place les règles coutumières avec des sanctions qui vont avec et qu'on va faire entériner par le pouvoir étatique et publier au journal officiel pour que ça soit opposable envers les tiers.
Professeur Alphonse Maïndo, merci.
Je vous en prie.
C'était notre invité, le professeur Alphonse Maïndo, qui s'entretenait avec Jacques Moukonkole. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du Journal du Matin qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jude Mister Bilandankouma et mise en onde par Alain Goy. Ce journal est disponible sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.